Bien, merci de votre invitation, sachant que je ne suis pas du tout un spécialiste d'esthétique, mais je m'intéresse plutôt, disons, dans politique du sensible, c'est plutôt l'aspect politique qui m'intéresse. Et je vais partir d'une réflexion sur le phénomène de la globalisation, sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années. Donc j'ai développé ces idées dans deux ouvrages, le Politique de la survie et l'autre, Anthropologie de la globalisation. Et il y a plusieurs choses. Il y a d'une part une réflexion sur la notion de globalisation en tant que telle. Et vous constaterez que j'utilise uniquement la notion de globalisation, qui d'ailleurs, je le constate aussi dans la récente période, est devenue de plus en plus utilisée en langue française. Pendant longtemps, effectivement, on considérait que globalisation, c'était quelque chose d'anglo-saxon et que l'équivalent français, c'était mondialisation. Or, ma première idée, c'est de dire que pas du tout. Mondialisation correspond, disons, à une certaine période d'internationalisation des échanges, à une extension des échanges, à quelque chose qui a trait, disons, à l'international, alors que globalisation correspond à une toute autre expérience. Je m'explique. La mondialisation, on peut la trouver, elle est décrite par exemple par Braudel à propos de au moment de la Renaissance. Il s'agit donc d'une plus grande mise en rapport, disons, entre des économies et s'impose cette idée d'une économie monde qu'a développée Braudel. La globalisation, c'est autre chose. La globalisation, ça a effectivement un aspect internationalisation des échanges, mais ça a aussi un aspect intégration. Et intégration qui signifie à la fois une intensification des interconnexions, d'une part, et d'autre part, une intensification aussi des interdépendances. Et le sentiment que la planète n'est plus qu'une sorte de village, hein, c'est l'idée du village planétaire. Et c'est là que commence l'expérience de la globalisation. Cette expérience est liée à plusieurs causes, hein, qui ont été mises en évidence en particulier par les économistes et par les spécialistes des technologies. La première cause, je fais très rapidement, c'est une économie basée sur la prégnance et l'hégémonie du capital financier, hein, et on en voit aujourd'hui tous les effets. La deuxième chose, c'est du point de vue technologique, hein, la mutation, la véritable révolution des technologies de la communication, avec en particulier l'Internet. Le troisième effet de tout cela, c'est aussi une recomposition globale des relations entre les différents pays avec l'effondrement du mur de Berlin, avec l'idée qu'on entrait dans une sorte de capitalisme intégré. Hein, certains parlaient de la fin de l'histoire. Et dans ce contexte, donc, une remise en chantier d'une notion qui avait fait florès dans les années précédentes, qui était la notion de centre et de périphérie, l'opposition entre le centre et la périphérie. Le fait qu'il n'y ait plus justement une position aussi tranchée et une dépendance aussi tranchée entre centre et périphérie, avec la montée en puissance notamment des pays émergents. Donc tout ça constitue un contexte qui bouleverse à partir des années 80, qui bouleverse complètement d'une part l'économie planétaire, mais d'autre part, je pense, tout un ensemble de représentations qu'on a de sa propre position dans cette société où nous vivons à la fois comme des individus locaux, hein, nous vivons dans un ancrage local, mais en même temps, nous avons en permanence cette expérience de la globalité. Je prends un seul exemple qui est l'exemple des problèmes que subissent aujourd'hui les entreprises et l'idée que les problèmes sont en grande partie liés au phénomène de délocalisation. Le fait qu'on puisse à la fois fermer une entreprise et le subir comme un malheur, comme une catastrophe qui vous frappe, mais qu'on sache à la fois qu'en même temps que cette catastrophe vous frappe, à l'autre bout du monde, c'est l'ouverture d'une autre entreprise par la même firme Et ce sentiment que finalement, ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres, donc il y a une sorte d'interconnexion permanente entre ces situations très éloignées, et ça donne en même temps une très grande difficulté finalement à maîtriser ce type de situation. Et l'idée qu'on ne maîtrise plus effectivement ce qui se passe, parce que les choses étant ce qu'elles sont, étant tellement liées, il n'y a pas un niveau qui serait le niveau local ou le niveau national, par exemple, qui permettrait d'assurer justement cette gestion des situations. D'où un sentiment souvent d'impuissance qui est encore accru avec la crise telle qu'elle se présente aujourd'hui. Avec aussi cette expérience qui a été décrite par Giddens, par le sociologue Giddens, qui est l'expérience de l'étirement, c'est-à-dire cette mise en connexion permanente entre des situations locales et d'autres situations qui ont lieu à l'autre bout du monde, et ce sentiment justement de cette interdépendance sur laquelle on n'a pas prise. Autre idée qui est ce que David Harvey, qui est un géographe, mais qui, comme vous le savez, je pense, est un spécialiste de l'urbain et qui a écrit un livre, à mon avis, très intéressant sur Paris. Je ne crois pas qu'il ait été traduit en français, mais je vous le recommande. Et David Harvey a beaucoup écrit, il a écrit un grand livre sur le postmodernisme. Hein, c'est lui qui, à partir justement de travaux sur l'architecture, a lancé en grande partie les notions clés autour de la postmodernité, mais il s'est aussi intéressé à l'expérience de la globalisation. D'une part, en tant que, je dirais, géographe économiste, il a mis en évidence ce qu'il appelle le phénomène d'accumulation flexible, c'est-à-dire la manière dont, pour développer encore plus la productivité, on adopte des méthodes flexibles et ça fait circuler encore plus la valeur. Et donc ça, c'est aussi un élément clé dans le processus de globalisation. Et par ailleurs, David Harvey indique que l'expérience essentielle de la globalisation, c'est ce qu'il appelle la condensation de l'espace et du temps. Et c'est cette condensation de l'espace et du temps qui est, à mon avis, absolument caractéristique de ce qui se passe aujourd'hui et de la difficulté même qu'ont les sciences sociales à se recomposer autour de l'étude de ces représentations. Parce qu'il est bien évident que dans ce contexte, les représentations qu'on peut avoir du monde spontanément, je dirais, ne sont plus du tout les mêmes de celles que nous pouvions étudier il y a encore, je ne sais pas, moi, une vingtaine ou une trentaine d'années. Et je prends souvent l'exemple que j'ai connu moi-même en tant qu'ethnologue quand j'ai travaillé dans une société africaine dans les années 70, et où j'avais des gens qui étaient dans les montagnes du sud de l'Éthiopie et qui étaient complètement séparés, qui se vivaient comme une société quasiment autonome avec leurs propres institutions, leur démocratie locale, etc. Et puis, une vingtaine d'années après, retournant là-bas, je rencontre des gens qui me disent qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est développer leur économie locale et pour ce faire, qu'ils ont besoin d'entretenir des contacts avec des ONG internationales. Et ils me demandent d'être un peu leur médiateur et ils me demandent aussi de les aider à travailler leur propre image, pour donner d'eux une image qui soit vendable sur le plan international. Donc ils me demandent de ressortir des vieilles photos que j'avais faites d'eux dans les années 70 pour s'en servir comme des sortes, pour faire une exposition et donc pour instrumentaliser en quelque sorte ma démarche, moi étant le détenteur en fait de leur archaïsme, et étant dans une position un peu d'anachronie, disons, par rapport à eux qui se situaient justement dans cette modernité globale et qui avaient d'emblée désormais une vision de leur situation comme faisant partie de cette globalité. Donc c'est ça un peu l'expérience de la globalisation. On en a tous des exemples dans notre quotidien, mais ça a des implications qui sont de différentes natures. On a pas mal discuté, disons, des conséquences culturelles de la globalisation. Je pense par exemple à l'ouvrage de Apadurai qui a été traduit sous le nom de « Après le colonialisme », qui s'appelle « Modernity at Large ». Et Apadurai développe beaucoup cette idée des rapports entre ces cultures locales et ces expériences globales en introduisant une notion qui est la notion d'ethnoscape, c'est-à-dire les paysages que nous portons en nous et qui sont des paysages à la fois reliés à notre site d'origine, mais qui, dans nos migrations, vont s'enrichir d'expériences différentes et qui font que, progressivement, ça transforme assez profondément notre représentation du monde. Et donc, Apadura, il fait toute une réflexion là-dessus. Et puis, il y a tout un débat aussi, à propos de la globalisation, sur le problème des hégémonies culturelles, de l'homogénéisation culturelle, de la McDonaldisation, etc., et de savoir dans quelle mesure le local arrive à tirer parti, à reterritorialiser, disons, ses expériences de la globalisation. Ça a donné matière à une importante littérature. Mais je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, je voudrais revenir justement à cette expérience de la globalisation vue sur le plan du politique, vue du point de vue du politique. Et un des débats qui est très frappant dans le contexte actuel à propos de la globalisation concerne en fait la question de l'État et la question de la pertinence, disons, de la dimension étatique. Beaucoup s'interrogent pour savoir si on n'assiste pas malgré tout à un affaiblissement, sinon même à un effondrement de l'État-nation qui était la forme dominante à la fin du XXe siècle. Beaucoup se demandent si finalement on n'entre pas dans ce que Bertrand Badie appelle un monde sans souveraineté ou ce que Rosenau, un théoricien américain, appelle la gouvernance sans gouvernement. Ce qui voudrait dire qu'en fait, dans ce jeu d'interdépendance, dans ce jeu d'interconnexion, d'une part, le politique serait mis à mal par la montée en puissance de la dimension économique et le fait que la crise financière ait pu prendre cette ampleur sans qu'il y ait en contrepartie pendant toute la période où les choses ont monté, en particulier toute la crise des subprimes, qui n'a eu aucune réaction pratiquement des instances étatiques, tendrait à prouver qu'effectivement, l'État, ce n'est pas seulement une question de choix politique, mais c'est aussi une question institutionnel, l'État serait un peu démuni, disons, par rapport à ce type de situation. Et par ailleurs, compte tenu de la montée en puissance des pays émergents, on serait entré dans une phase de multilatéralisme qui implique qu'il n'y a pas des États isolés, mais il y a ce qu'on appelle des G, des G20, des G7, des G, etc., qui sont en fait des groupes de gouvernement qui pourraient, à la limite, se substituer justement à la prégnance de l'État-nation. Donc on arriverait, disons, à une situation de mise à mal, en fait, de cette notion d'État et à une montée en puissance, disons, d'une scène transnationale avec, d'une part, des organisations gouvernementales, par exemple, ces grandes organisations comme le FMI, l'OMC, la Banque mondiale, et puis, par ailleurs, des contre-pouvoirs aussi transnationaux qui joueraient un rôle de plus en plus important. Et je pense évidemment à ces très grandes ONG internationales qui vont de Médecins sans frontières à Oxfam, en passant par WWF. Enfin bref, tout un spectre, finalement, de contre-pouvoirs qui se déploient sur une dimension qui n'est plus la dimension nationale. Donc il y a un débat assez fort qui se joue à ce niveau entre les... entre ceux qui disent, au fond, les États sont dépassés et ceux qui, comme c'est le cas, par exemple, d'un autre chercheur de Sciences Po, Sami Cohen, disent qu'on assiste quand même à une résistance des États et que les gouvernements essayent quand même de maintenir leur emprise sur le fonctionnement politique. C'est ça, généralement, le débat sur la globalisation. Et à mon avis, c'est le point que je voudrais souligner, à mon avis, ce débat manque une dimension, qui est la dimension de savoir si on peut parler, et ça j'emploierai cette expression, d'un déplacement du politique, c'est-à-dire le fait que le politique se joue peut-être ailleurs que dans les cadres traditionnels de l'État-nation, mais que ce déplacement du politique n'est pas seulement thématisable en termes d'institutions, de réorganisation institutionnelle, comme on a tendance à le faire. Et on voit toujours le schéma en termes d'organisation concurrente, compétitive, etc. Et c'est la question, est-ce que ce sera l'État, est-ce que ce sera autre chose, etc. Moi, je pense que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est une transformation en profondeur de nos rapports aux politiques. Et qui est liée justement à l'expérience que je décrivais, qui est cette expérience de la globalisation. Et la thèse que je propose, notamment dans ce livre « Politique de la survie », c'est la suivante. Il s'agit d'une thèse, donc je la mets en discussion, parce qu'elle concerne aussi, justement, cette question du sensible. Il me semble, si vous voulez, que pendant longtemps, finalement, on a vécu sous ce que j'appellerais le régime de la convivance. On a vécu sous le régime de la... Qu'est-ce que c'est la convivance? C'est tout simplement, disons, la question de l'être ensemble. De l'être ensemble et, disons, l'harmonie synchronique entre les êtres humains. Alors, ça peut prendre différentes formes. Ça ne veut pas du tout dire que c'est pacifique, ça peut être violent. Et il y a toutes sortes de philosophies politiques qui ont réfléchi, en fait, sur cette thématique de la convivance. Donc ça va d'une philosophie axée beaucoup plus sur le thème de la guerre comme celle de Hobbes à une philosophie axée sur celle de la communication comme celle de Habermas. Mais je ne veux pas faire de raccourci, ça n'a pas de sens. Simplement dire que ça a alimenté aussi une certaine représentation de la politique et des programmes politiques, avec l'idée que la politique, c'était ce qui permettait justement d'améliorer la convivance, que ça soit sous la forme de... un épanouissement des individus dans le cadre de la libre compétition, ça serait la version, je dirais, droitière, ou dans le cas d'une vision plutôt de gauche, disons, insistant sur le rôle du collectif, de la justice, etc. Tout ça pour assurer cette meilleure convivance. Et l'idée, généralement, c'était de faire des programmes de gouvernement pour que les lendemains soient meilleurs. Et ce que j'essaye de réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, il me semble que ce n'est plus du tout cette question qui est à l'ordre du jour dans les rapports qu'on entretient à la politique. Et je place une autre notion en regard de la notion de convivance, qui est la notion de survivance. La notion de survivance, c'est la question de savoir, en fait, de quoi demain va-t-il être fait et quelles sont les menaces qui pèsent sur notre avenir. Et c'est cette prise en compte, en fait, de la notion de menace, de la notion de risque, Henri-Pierre parlait de catastrophe, qui est devenue totalement prégnante précisément dans ce contexte de la globalisation. Ce n'est pas du tout un hasard si cette chose s'impose de plus en plus. C'est, je dirais, une expérience anthropologique de la menace qui aboutit finalement à une demande à l'égard des politiques qui est justement une demande qui concerne la survie. Qui concerne la survie, ou ce que j'appelle la survivance par opposition à convivance. Donc, c'est aussi un rapport complètement différent en termes de temporalité, ça c'est très important, c'est une expérience du temps qui n'est pas la même, c'est-à-dire que ce n'est pas une expérience du temps comme un temps cumulatif en termes de progrès, mais c'est au contraire une expérience qui n'implique pas que l'avenir va être meilleur que n'a été le présent ou que n'a été le passé. Et donc, cette dimension, qui, c'est pas moi qui suis du tout le premier à le dire, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens ont constaté, c'est justement le fait que tout d'un coup, le progrès n'a plus de signification face à un certain nombre de phénomènes qui concernent l'économie, qui concernent l'environnement et qui concernent aussi les problèmes de sécurité au sens large du terme, la notion de précarité par exemple. Tout ça, ce sont des notions qui sont devenues très importantes et en contrepartie de quoi, par exemple, on a mis l'accent sur la nécessité de la durabilité, c'est-à-dire... Donc l'idée, par exemple, de développement durable, qui était une notion tout à fait, confidentielle encore dans les années 80 et qui est devenue une notion centrale. Et le fait qu'on puisse mobiliser des politiques, par exemple, sur ce qu'a été, par exemple, le Grenelle de l'environnement, faire de ce thème un sujet éminemment politique, éminemment public et a priori mobilisateur, c'est quelque chose qui, il y a 20 ans, était totalement impensable. C'est lié, justement, à mon avis, à cette expérience et à cette préoccupation de la survivance qui remodèle en fait les rapports qu'on peut avoir à la politique. Et alors, si on va un peu plus loin dans ce raisonnement, la question qui se pose, c'est, et là on revient peut-être au problème du transnational, disons, c'est comment peut se gérer cette survivance. Et là, effectivement, on a le problème des limites du niveau national étatique, il fait qu'un certain nombre de questions, de plus en plus, sont portées par des organismes qui sont des organismes transnationaux et engendrent aussi des conflits, des débats au niveau transnational. Et alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les institutions elles-mêmes, mais c'est aussi, d'une part, la production des concepts dans ces lieux transnationaux, la façon dont les débats s'organisent, la scène publique qui se met en place, parce qu'il y a toute une scène publique de ces débats. Et c'est ce que j'appelle le global politique. Et pour moi, il n'y a pas une opposition tranchée, disons, entre d'un côté le global politique qui, à terme, effacerait l'État-nation ou inversement, mais plutôt une possibilité de cohabitation et plutôt, surtout, tout un ensemble de questionnements qui, progressivement, se déploient sur cette dimension et qui gênent considérablement, et c'est ça qui est intéressant, l'action politique au niveau national, qui fait que les politiciens, aujourd'hui, sont assez... désarmés en fait quand ils essayent justement de continuer à élaborer des programmes, et on le voit aujourd'hui Ceux qui s'en tirent le mieux, ce sont en général les pragmatiques, c'est-à-dire ceux qui essayent de se mesurer à la crise et de trouver des solutions relativement ponctuelles, alors que les autres qui veulent opposer, comme on dit, des alternatives, on le voit aujourd'hui avec l'opposition par rapport à la majorité en France, mais c'est le cas français, mais on trouverait d'autres exemples ailleurs, on a ce fait que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'alternatives qui ne peuvent plus se déployer sur le plan du national. Donc ça implique quand même une recomposition assez forte du rapport aux politiques. Ça implique des exigences assez nouvelles. Et ça implique effectivement aussi ce dont Henri-Pierre parlait, à savoir, un rapport entre l'individuel et collectif, l'idée de cette, tu parlais d'une communauté intimiste par exemple, le fait qu'on se replie à un certain moment sur cette intimité, qu'on essaie de la faire fonctionner, mais justement pas dans les cadres traditionnels, l'opposition publique-privée, enfin, ce que tu as montré très bien. Moi je pense que ça fait partie effectivement de cette expérience complexe qu'on vit avec une perte de certains repères qui organisaient en fait nos rapports à la fois au public et nos rapports au collectif. Donc dans ces conditions, c'est bien évident que cette notion de sensible, et là je viens au point qui nous intéresse, cette notion de partage du sensible peut prendre, c'est pas par hasard à mon avis qu'elle prend une certaine ampleur, parce que on se réfère au texte de Jacques Rancière, qui, à mon avis, d'ailleurs, sur le plan de l'esthétique, sont plutôt une désesthétisation, si on y regarde de plus près, du sensible. Il me semble que, justement, ce que Rancière essaye de mettre en place, en fait, c'est une sorte de reconfiguration de la notion de commun, de communauté, en faisant apparaître ces débats autour des parts qu'on peut avoir, ou le fait qu'on puisse accéder à des parts alors qu'on est sans part et qu'on puisse venir sur le débat. Et je vais donner un exemple qui m'a beaucoup frappé récemment et qui fait écho, bien qu'il n'étant pas du tout ni dans le champ de l'esthétique ni dans le champ de la politique nationale. C'est quelque chose que j'observais, c'est un débat qui se passe à l'Organisation mondiale du commerce, c'est un débat sur le coton. Ça va vous paraître assez éloigné comme ça, mais en fait vous avez toute cette question du sensible qui se condense en fait dans ce débat sur le coton. Donc voilà la question. Vous avez une organisation mondiale du commerce qui édicte un certain nombre d'idées qui visent à libéraliser, à ouvrir au maximum les échanges. L'idée étant que plus on ouvrira les échanges et plus ça permettra une fluidité dans les relations économiques et plus ça sera profitable aux uns aux autres. Sauf que, évidemment, il y a des déséquilibres. Il y a des gros, il y a des petits, et puis il y a des nouveaux gros. Il y a les gros Europe, États-Unis, par exemple, et puis face à ça, par exemple, aussi les pays africains. Donc Europe et États-Unis sont évidemment pour l'ouverture, et la demande en particulier pour les télécommunications, pour toutes sortes de choses qu'ils voudraient exporter en masse dans des pays, notamment dans les pays émergents comme la Chine et les pays d'Asie, mais en même temps, sur certains plans, ils n'ont pas du tout envie qu'on vienne les embêter en phagocytant leur agriculture. Et on a cette question suivante, c'est que sur le point du coton particulièrement, les États-Unis subventionnent massivement leurs producteurs, les Portugais, les Grecs aussi subventionnent leurs agriculteurs, c'est assez minime en Europe. Enfin, disons, c'est surtout les États-Unis. Et un jour, les Africains, qui, eux, pour qui le coton est une ressource vitale, un jour les Africains interviennent dans le cadre d'une conférence gouvernementale qui se tenait à Cancun de l'Organisation mondiale du commerce et disent « Nous, on ne signera pas, il y a 153 pays, il suffit qu'il y en ait un qui s'oppose et on ne peut pas boucler ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle de Doha. Donc on ne veut pas signer tant qu'on ne règle pas ce problème des subventions qui déséquilibre évidemment les échanges en faveur des États-Unis. » Et voilà qu'ils créent ce qu'ils appellent un C4, un Cotton Four, un groupe de 4 pays qui s'occupe du coton et qui décide désormais d'exister et de demander, de faire un certain nombre de demandes. Et c'est précisément un petit peu, je pense à une phrase de Rancière qui dit, Rancière dit, la politique, ça commence justement avec cette reconfiguration en fait du partage du sensible, et l'entrée sur le thème du coton, qui est évidemment un thème éminemment sensible, l'entrée de ces pays qui disent voilà, on existe désormais et on tient un autre discours que le discours de l'organisation, puisque on n'arrive jamais à nous entendre. Et là se passe donc une scène qui est la scène de Cancun, qui est une sorte de scène inaugurale, parce que les ONG vont participer à des manifestations, enfin il va y avoir tout un ramdam autour de ça, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une sorte de fil conducteur qui est en fait l'instauration, la demande d'instauration d'un nouveau partage autour de cette question du coton, qui concerne aussi des grands pays comme le Brésil, mais le Brésil a une autre attitude par rapport à ça, puisque lui engage directement un litige dans le cadre de l'organe de règlement des différends de l'OMC. Bon, mais je ne vais pas développer. Simplement, vous voyez que dans le contexte de la globalisation, un certain nombre de questions amènent à ce type de reconfiguration qui redéfinit en fait, qui vise à redéfinir d'autre part, et c'est ça, là je reprends l'idée de Rancière, sans que pour autant ça ait des effets particulièrement, je dirais, en termes d'esthétique, mais esthétique, ça dépend, c'est-à-dire c'est en termes, je dirais, de visibilité. Et c'est la question, au fond, qui de plus en plus, une des questions qui se pose, et là je rejoins aussi ce que tu dis, c'est la question de la visibilité. Alors quand on dit visibilité, on pense effectivement à la visibilité sur des cas concrets comme la ville ou comme l'individu, etc. Mais je pense qu'aussi, sur le plan de ces manifestations transnationales, qui sont a priori dans des lieux clos, justement, dans des lieux où tout le monde suspecte que quelque chose se passe, et c'est vrai que quelque chose se passe qui va avoir des effets considérables sur l'économie nationale, en fait, l'idée même de rendre visible le litige, etc., et là on peut encore reprendre les termes de Rancière, est particulièrement intéressante parce que, justement, ça tourne autour de cette idée de partage. Et ça n'a de sens, à mon avis, tout ça ne prend sens que dans ce contexte de la globalisation et de la thématique, justement, de la survivance. C'est pas, en fait, là, personne ne demande des progrès particuliers, mais simplement, il y a des appels qui sont des appels, je dirais, presque existentiels. On est là, on existe, et on va se manifester. Et je pense d'ailleurs que dans les luttes qui vont se déployer, à mon avis, dans les mois qui viennent, ça va être aussi une des grandes modalités, c'est-à-dire l'idée de on existe, on est là, et c'est peut-être pas enthousiasmant comme pouvaient l'être autrefois des mouvements qui avaient des programmes, qui avaient des alternatives, qui avaient des grandes positivités, mais c'est plutôt ça qui est en train de se passer. Et c'est ça, à mon sens, qui se passe quand on repartage le sensible dans le cadre d'expériences où public et privé sont intimement liés. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette présentation, et je m'arrête.